Alors, c'est temps de Pâques, on poursuit notre étude sur la lettre de Paul aux Colossiens. On avait vu, il y a 15 jours, comment Paul centre sa lettre sur la pleine suffisance, Christ suffit. Et c'est dans cette même veine qu'on va continuer pour cette Christ est suffisance et cette lettre aux Colossiens, on va continuer ce qu'on a notre étude des versets 15 à 23 ce matin. Parce qu'en préparant, j'ai remarqué que finalement, dans ce monde, il y a deux choses. Soit les choses ne sont pas finies et on est sans cesse à découvrir des choses ou à modifier les choses existantes, soit les choses sont oubliées aussi rapidement qu'elles apparaissent. Les plus vieux d'entre vous se souvenaient peut-être de la tectonique, soi-disant une mode qui allait durer à l'infini. Les hand spinners, les pog, bref, là je parle comme un vieux, mais disons que voilà, toutes des modes qu'on avait dit, ça restera à l'infini, et toutes ces choses ont été balayées, oubliées. Ou toutes des choses qu'on a découvert l'atome, on a dit l'atome c'est quelque chose qui ne pouvait pas se couper, on a dit c'est le plus petit, et finalement on a découvert que dans l'atome il y a encore des choses. Voilà tout ça pour dire que les idées, soit elles disparaissent, soit elles sont jamais finies. Elles manquent, elles ne suffisent pas, quelque chose a besoin d'être modifié, de la science, la technique, la musique, tout évolue, tout change. Et des fois, on parle comme des vieux, c'était mieux avant. Tout peut rapidement devenir obsolète. Hop, on oublie, on change. L'émergence des réseaux sociaux a encore accentué la vitesse de disparition et de changement des idées. Aussitôt élevées, aussitôt disparues, les idées ne suffisent pas, les idées sont oubliées. Et pourtant, aujourd'hui, nous, on est là ce matin pour une idée, un événement qui s'est passé il y a plus de 2000 ans. Une Pâque très particulière. Il y a plus de 2000 ans, une Pâque très particulière qui a changé à jamais et de manière suffisante et suffisamment ancrée pour ne pas être oubliée. Une Pâque qui, malgré tous les siècles d'idées, d'innovations, de changements, que ce soit des idées politiques, que ce soit des idées intellectuelles, économiques, de tout temps, on a essayé de masquer ce message de la croix. Et ce message nous est parvenu. Ce message, il a traversé un message qu'on aurait donné peu de cas, et pourtant qui est venu jusqu'à nous. La pleine suffisance de Christ et la pleine suffisance de ce qu'il a fait. Ce message de ce matin, c'est cette œuvre parfaite et pleinement suffisante que Paul va nous parler. Et la Pâque de Christ a tout changé, c'est ce qu'il va écrire aux Colossiens quand il va poursuivre. On a vu déjà, il a dit, voilà, ça c'est tout ça, c'est Christ qui l'a permis. Il avait présenté qu'il avait prié pour eux, il les avait encouragés, et il dit maintenant, on a une pleine suffisance et je lirai avec vous les versets de Colossiens 1, 15 et 23. Pour ceux qui ont le petit carnet, je vous invite aussi à lire dedans. Et c'est une grâce pour nous de pouvoir lire ensemble cette parole qu'il puisse encore, comme on l'a chanté, travailler dans nos cœurs. Colossiens 1, 15, 23. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ réconcilier, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé à la croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils, dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, afin et qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Ah, jusque-là, la parole de Dieu. Je vais prier. Seigneur, merci que ta parole puisse encore nous toucher, comme on l'a chanté. Ta parole est cette fondation. Ta parole nous instruit. Et merci pour ce message qui a traversé les siècles, et ce matin encore tu puisses nous rappeler des choses, nous confirmer, nous affermir, nous rejoindre sur le chemin là où nous sommes. à travers ce qui va être partagé. Merci pour ta présence, merci pour la puissance de ton esprit qui nous anime. Amen. Donc le contexte, hein, comme on l'a dit, Paul écrit à l'église de Colosse, donc cette église de Colosse, alors, qui était une ville où Paul n'est jamais allé, c'est, voilà, je pense qu'on la voit très bien, elle était entre Laodicée et Hierapolis, et c'est une ville qui, quand il reçoit des nouvelles de son ami Epaphras, il lui apporte des nouvelles, et Paul est alors prisonnier, comme on l'a dit, un épître daterait de 62-63, lors de sa première incarnation, quand il a été arrêté à Rome. Et il écrit à cette église qu'il ne connaît pas, parce que c'est une église qui sait qu'il est en danger face aux différents mouvements, face aux différentes croyances, comme l'église de Corinthiens qu'on avait vue ensemble. Et Paul, il les avertit, va les exhorter pour leur centraliser, comme on l'a dit, hein, ça c'est aujourd'hui, voilà, une lettre d'encouragement en disant vous faites les choses et maintenant, je vais vous montrer que cette lettre est une marque, la pleine suffisance de Christ. Parce qu'il y avait des idées, sans rentrer dans tous les détails, il y avait des idées gnostiques. Alors le gnosticisme, c'est-à-dire on fait de Jésus un des dieux qui peut exister, on transforme la vérité biblique, la vérité des apôtres, en quelque chose de fondamentalement différent. Et c'était un risque que pouvait avoir cette église, entre autres. Et Paul va leur écrire en disant, attention, ne tombez pas dans ces risques-là. Ne déformez pas Jésus-Christ. Et c'est pour ça que, après avoir été encourageant, après avoir dit, il faut prier, après avoir dit, regardez tout ce que Jésus a fait pour vous, il va s'arrêter sur la première partie de notre étude ce matin, Jésus, sa personne. Il va souligner la personne de Jésus. Et ça, c'est Colossiens 1, 15-17. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alors Paul annonce aux croyants de Colosse que Dieu les a arrachés aux ténèbres, hein, ça c'est ce qu'on avait vu, pour les placer dans les royaumes de son Fils. Et maintenant il dit, qui est ce Fils? Qui est celui qui était capable de faire ça? C'est Jésus. Et il dit, pourquoi il a été capable? Parce que voilà comment il le rappelle, hein. Il dit, Jésus c'est le Fils de Dieu, c'est le seul homme, mais qui était pleinement Dieu. Pleinement homme, pleinement Dieu. Paul décrit Jésus non pas au centre de leur vie, comme ça devrait être, mais il dit, il est même au centre de l'univers créé. Jésus est au centre de tout ce qui existe. Tout a été fait pour lui et par lui. Il n'est pas en train de dire que Jésus peut être remplaçable, que Jésus est l'égal de toutes ces divinités qui existaient à l'époque, toutes ces courants de pensée. Il dit non, Jésus n'a rien à voir. Il est le Fils, il est l'image du Dieu invisible. Il est celui qui représente Dieu sur terre par rapport à l'humanité en même temps. Homme, Dieu, pleinement suffisant. Il dit c'est lui qui est au centre de tout. Si lui est au centre de l'univers, comment il peut être en dehors de vos vies? Il est en train de le décrire comme une personne unique. Il n'a pas d'égal, Jésus. En annonçant cela, Paul décrit Dieu en Jésus-Christ, une personne différente dont l'autorité est absolue. Il dit bien l'autorité, le visible, l'invisible, les trônes, les souverainetés, les dominations, tout est assujetti, tout est sous la domination de Jésus. Il n'y a rien qui est au-dessus de lui. Ça, c'était pour combattre les idées qui disaient qu'il y avait différentes strates de Dieu et Jésus était un des dieux et au-dessus, il y avait encore d'autres dieux. Il dit non, tout ça, vous l'oubliez. Dans la pensée que moi, je vous annonce dans l'Évangile, dans cette bonne nouvelle que vous avez reçue, Jésus est l'autorité absolue. Et cela nous rappelle également dans ces versets qui est Jésus. Et il le rappelle aux Corinthiens. Aux Colossiens, pardon. Il le rappelle, il leur dit, voilà qui est la personne de Jésus. C'est pas innocent, en fait. Est-ce que nous, parfois, on prend le temps de méditer ces versets que moi j'ai préparés? J'avoue que des fois, je me dis, oui, je prends pas des fois assez le temps. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de tout. Tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce que parfois, je prends pas Jésus comme un pote, vite fait, quoi? Est-ce que je ne prends pas la mesure de la personne qu'il est? Est-ce que j'ai toujours la même référence en m'adressant à Jésus? Est-ce que j'oublie cette autorité en disant « Ah ça, Jésus, il ne peut peut-être pas le faire parce que peut-être pas capable, dans ma faiblesse. Mais Jésus est le Fils de Dieu, la personne centrale de tout. Et il règne, qu'on le voit ou pas, il règne, il est assis sur le trône, à la droite de Dieu. Et c'est un homme, et pourtant il est assis, c'est un homme qui règne au ciel, c'est un homme tout en étant Dieu. C'est incroyable que parfois j'oublie de mettre Jésus qui est au centre de tout, j'oublie de le mettre au centre de ma vie. C'est ironique. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et là, c'est pour ça que Paul insiste aux Colossiens en disant, il est le centre de l'univers, il doit être le centre de vos vies. Vous ne pouvez pas vous permettre d'ajouter quelque chose à Jésus ou au contraire, supprimer quelque chose de Jésus. Et si c'est notre cas ce matin, c'est ton cas, si c'est notre cas, on peut sortir Jésus du centre de nos vies. Rien n'est perdu, hein? Rien n'est perdu. Il suffit juste de revenir à cette parole et de nous imprégner de ces versets et dire « Oui, si Jésus, tu es au centre de l'univers, sois au centre de ma vie. Si tu règnes sur toutes les autorités, règne dans mon cœur. Parce que c'est déjà là que tu as ta place. » Laissons-le s'asseoir sur le trône, il sera mieux sur le trône de nos cœurs que nous-mêmes. Je ne sais pas vous, mais moi je fais un très mauvais dirigeant. Et si Jésus règne déjà, alors laisse-le régner. Il doit être le premier dans nos vies parce qu'il est le premier dans tous les domaines. Et Paul reviendra dessus par la suite. Et ça a l'air de rien, mais en quelques versets, en deux versets, Paul centralise la pleine suffisance de la personne de Jésus. Il dit « n'allez pas chercher ailleurs ». N'allez pas chercher ailleurs. En deux versets, il fait le lien entre l'encouragement qu'il leur a donné, le besoin de prier, que Jésus les a fait transférer d'un royaume à l'autre, mais il dit voilà pourquoi il a pu le faire. Maintenant, je vous explique pourquoi il a pu le faire. Parce que Jésus, c'est au travers sa personne. Si sa personne change, bah, vous pouvez plus être sauvé. Si vous changez Jésus, bah, c'est plus le sauveur qu'il annonce. Paul nous rappelle que la personne de Jésus est unique. Et nous n'avons pas à y toucher, nous. C'est Dieu qui l'a établi de cette manière. Et il explique après par la suite cette œuvre. Et ça, c'est la suite, l'œuvre maintenant de Jésus. Il dit, voilà, Jésus, ça c'est sa personne. Et au verset 18 à 20, il dit, voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Ça, c'est les versets suivants. Hein. Il y a trois aspects que j'ai relevés de l'œuvre de Christ. Une œuvre unique, comme on l'a dit. Une œuvre qui a bouleversé l'histoire. Si on avait interrogé, je pense, les disciples qui étaient sur Emmaüs, ou sur le chemin d'Emmaüs, ou Paul, quand il écrivait cette lettre, que 2000 ans après, des gens reviendraient encore et encore attendre le Messie. Incroyable que ce message ait traversé autant de siècles. Et voilà ce qu'il va dire en poursuivant. Donc verset 18 à 20, il dit « Il est la tête, donc Jésus, il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé à la croix. » Donc rapidement, je vais relever, alors dans le sens inverse que Paul les indique. Déjà au verset 20, il parle de la croix. Et il dit, c'est par la croix qu'on a accès à ça. Paul annonce que l'œuvre de Christ, au cours de cette Pâque très particulière où Jésus est mort, il dit, c'est parce que ce sang a coulé sur le bois. C'est là où Jésus a payé, c'est là où la réconciliation s'est faite. C'est là, dans la faiblesse absolue humaine, que Dieu a remporté la victoire. Et c'est ironique parce que là où les gens se moquaient de ce qu'il était en train de faire, si t'es vraiment le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. Voilà ces derniers pics lancés au Sauveur. Et c'est en se laissant mourir qu'il remporte la plus grande des victoires. Et Jésus réconcilie un monde qui était brisé, comme ils disent en hébreu, le tikkun olam, le monde qui a besoin d'être réparé. Et c'est ce que Jésus fait en mourant. Il dit, et Paul l'annonce aux Colossiens, c'est au travers cette mort et sur la croix que le monde est réconcilié. Il dit, c'est la paix, elle est venue par le sang. Et tout au long de l'Évangile, et tout au long de l'Écriture, il y avait besoin de sang pour apporter la paix. Tout au long de l'Écriture et de l'Évangile, il y a besoin de sang pour être réconcilié. Et c'est ce que Jésus a fait sur la croix. C'est la croix, elle faisait partie d'un plan mystérieux. Mystérieux, miraculeux, merveilleux. c'est le même mot en hébreu, mais je trouve ça très beau. Que, voilà, que Paul leur dit, c'est ça, c'est la croix. C'était, ça faisait partie de ça. Parce que ça a été les premières choses où on a ridiculisé Dieu en disant, vous ne pouvez pas croire à un Dieu qui est mort. Un Dieu ne meurt pas. Et on ridiculisait en disant, non, c'est pas Jésus qui est mort, c'était quelqu'un d'autre. Et quand vous regardez dans les différentes sectes qui existent aujourd'hui, c'est Jésus qui a été défait d'une de ses facettes. Et du coup, on transforme qui est Jésus. Et Paul leur dit, l'annonce, il leur dit, c'est le bénéfice de cette croix qui vous permet d'être transformé dans ce royaume. C'est ce qu'il annonçait dans les premiers versets. Il dit, si vous êtes passé des ténèbres à la lumière, c'est parce que la croix a eu lieu. Il dit, si vous reniez cette croix, ben, vous ne pouvez plus être transféré. Et pendant ces temps de Pâques, nous, on aime se souvenir de cela, de la mort et de la résurrection. Et aujourd'hui, je sais qu'on s'affaire à beaucoup de choses dans ces week-ends. Je me dis, prenons le temps de méditer ces paroles, de saisir l'œuvre de la croix. Et nous, on a la chance, hein, on le disait avec quelques frères et sœurs avant que ce culte commence, c'est que Pâques, ça peut être tous les jours, tous les dimanches. On s'en souvient. On n'est pas obligé d'attendre un jour particulier. Alors ce jour-là, on peut mettre le paquet, on peut évangéliser, mais on a cette espérance. Et Paul ne s'arrête pas là, il a présenté l'œuvre, mais il a dit, il y a aussi une résurrection corporelle, ça c'est le 18b, c'est ce verset, la première partie du 18. La deuxième partie, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il leur dit, il n'y a pas seulement la croix, il y a aussi cette résurrection. Il annonce un fait incroyable, un fait de la foi. En fait, c'est ce qui sépare l'historien du chrétien. L'historien, il dit oui, Jésus est mort sur la croix. Le chrétien, il dit oui, mais il est ressuscité. C'est la différence entre la foi et l'histoire. Et là, Paul leur dit, parce qu'il est ressuscité, il a prouvé qu'il était fils. Parce qu'il est ressuscité, corporellement ressuscité, il montre que son œuvre est parfaite. Parce que le péché n'a pas pu le retenir, vu que Jésus n'avait pas péché. Et comme le salaire de la mort, le salaire du péché c'est la mort, ben Jésus ne méritait pas de mourir. Et donc il est bien mort pour nous. Donc c'est ce qu'il est en train de leur dire. Il dit, il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et Jésus inaugure le premier corps de gloire que nous aurons tous lors de son retour. Il dit, il est le premier parce qu'il faut qu'il soit le premier. En tout, c'est lui qui inaugure une première humanité. Une humanité en Jésus et non plus en Adam. Jésus, par son œuvre, dont la résurrection est le sceau d'approbation de Dieu sur ce qu'il a fait. Dieu ressuscite son Fils parce qu'il ne pouvait rester dans la mort. Et il est le premier. Alors bien sûr, ceux qui connaissent la Bible disent, mais c'est pas le premier qui ressuscite. On a vu, il y a plusieurs résurrections. Il y a les enfants, Élie et Élisée qui ressuscitent les enfants. Les enfants, il y a aussi Lazare qui est très connu. Il y a plusieurs endroits dans la Bible où il y a des résurrections. On se dit, bah oui, il y a la fille de Jaïrus. Mais la supériorité de Jésus, c'est qu'il ne meurt plus. Ouais. Tous ceux qui sont ressuscités de nouveau, ils sont de nouveau morts. Lazare est mort de nouveau. La fille de Jaïrus est de nouveau morte. Ces gens-là ont un miracle incroyable, mais qui était temporel. Jésus en ouvre une nouvelle humanité qui, elle, ne mourra plus. Parce qu'elle sera libérée du péché. Et c'est ça qui va changer. C'est pour ça que Paul le dit, attention, lui, il est vainqueur sur la mort. Il n'est pas seulement vainqueur temporellement, mais éternellement. Il leur dit, il fallait que lui soit le premier pour ouvrir une humanité. C'est pas qu'une résurrection d'un temps, c'est une résurrection à jamais. Et c'est son œuvre à la croix qui est approuvée par une libération totale. Quelle grâce, infinie. C'est ce qu'il est en train de dire aux Colossiens. Vous êtes sous cette grâce. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire. Les Colossiens sont appelés à se centrer sur Christ et sur Christ seul et sur son œuvre et sa personne. Non, Jésus n'est pas resté mort. Aujourd'hui encore, et si nous sommes persuadés que c'est le cas, je pense que c'est le cas, hein, si nous sommes venus ce matin en étant persuadés que Jésus est pleinement ressuscité. Lors du réveil du Pays de Galles en 1904, les gens rentraient dans les bars qui avaient cessé de vendre de l'alcool, mais les gens rentraient et disaient « Jésus est vraiment ressuscité, il est vraiment ressuscité ». Les gens avaient vraiment changé, c'était un pays de mineurs, et où l'alcoolisme faisait des ravages, et il y a eu un grand réveil, à tel point que les ânes qui aidaient à la mine ben, n'avançaient plus, parce qu'on leur avait tout le temps tapé dessus et les insultés, et quand les gens étaient tout debout, ben, ils ne savaient plus quoi faire. Les gens avaient changé, une grâce infinie. Jésus est vivant. Et encore aujourd'hui, au XXIe siècle, ça n'a pas changé. C'est la même chose que disait Paul dans les années 60, mais pas les années 60, 1960, les années 60. Vous imaginez le message, comme il traverse. Je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose qui y ait tenu aussi longtemps. Mais c'est pas fini, Paul dit aussi, et il commence par là, c'est pour ça que j'ai fait l'inverse, hein. Il dit que Christ, dans son œuvre, il a la tête de l'Église. Ça, c'est le 18a, hein. C'est le premier, il dit Jésus, c'est le chef de l'Église, c'est la tête. Jésus, par son œuvre, a créé l'Église. L'Église, c'est pas un hasard, l'Église, c'est pas une erreur, l'Église, c'est pas une parenthèse de quelque chose. L'Église, c'était voulu, c'était compris dans l'œuvre de Jésus. Et c'est ce qu'il écrit aux croyants de Colosse en disant, vous, chrétiens de Colosse, vous n'êtes pas en dehors du plan de Jésus. Mais Jésus, c'est la tête de l'Église en général et de chaque Église locale. L'Église est donc l'œuvre de Christ qui suit la Pâque. Christ savait dans son ministère terrestre qu'il n'irait pas en dehors d'Israël. Et c'est pourquoi il dira à ses disciples, vous ferez des choses plus grandes que moi, des œuvres plus grandes, parce que vous vous annoncerez non seulement en Samarie, non seulement en Judée, mais aux extrémités de la terre. Là où moi je ne suis pas allé, corporellement, vous irez, vous serez mes représentants. L'Église est voulue par Christ, mais dirigée par lui. Une Église sans Christ ne sert à rien. Et pourtant, l'histoire de l'Église montrera que souvent, ce n'est pas lui qui était aux commandes. Et d'ailleurs, il y a cet avertissement dans Apocalypse, hein, Apocalypse 3, où il dit « Je suis à la porte et je frappe ». Il parle à une Église. Il parle à une Église qui l'a mis dehors. Une Église qui se vante de plein de choses, d'être riche, de faire plein de choses, mais qui a oublié son Sauveur à la porte. Et en précisant cela, l'apôtre place Jésus dans son autorité de chef de l'Église. Il dit « Personne commande l'Église », à part ceux qui sont délégués par Christ. Mais il dit « Attention, celui qui commande vraiment, ça reste Christ ». Et il y a des faux enseignements et des faux enseignants qui vont nier cette œuvre et qui vont sortir du cadre de la parole. C'est pour ça que Paul prend la plume et il dit « Voilà l'Église de Colosse, tenez bon face à tout ce qui va arriver ou tout ce qui est peut-être déjà dans vos rangs ». Tous les gens qui vont commencer à transformer Christ, à prendre la tête, alors que c'est pas leur place. Et aujourd'hui encore, questionnons-nous, est-ce que Christ est le chef de l'Église? S'il n'est pas le chef de ma vie, il va être difficilement le chef de l'Église. Est-ce qu'on va avoir du mal à mettre quelqu'un d'autre que nous-mêmes? Et c'est comme on a vu aussi la semaine dernière, hein, c'est pourquoi on est invité à grandir dans la connaissance de Christ pour ne pas se laisser aller à tout vent de doctrine, mais d'être ferme. Et pour être ferme, il faut replacer Christ au centre. Il dit, si Christ est bien tout ça dans vos vies, si Christ est bien tout ça dans l'Église, s'il est bien le Fils, s'il est bien par son œuvre qu'il est la tête de l'Église, qu'il est le premier-né d'entre les morts, quand lui a toute la plénitude, si c'est bien par sa mort et sa résurrection que nous avons la paix, alors oui, Jésus suffit, il est à sa bonne place. Et c'est donc une œuvre parfaite en quelques versets. Vous voyez comment Paul décrit Jésus et décrit son œuvre. Il est en train de dire tout ça, c'est possible parce que Christ est Christ, parce que Jésus est ce Jésus que je vous annonce. Et si l'autorité de Christ ou si Christ n'est plus ce que je viens d'en dire, son œuvre n'est plus parfaite et vous n'êtes plus sauvés. C'est le chef de l'Église. C'est lui qui a la gloire, la grandeur. C'est lui qui mérite toute chose. Et tout comme aux Colossiens, nous devons encore nous laisser enseigner par Dieu, par sa parole, en le plaçant à la première place. L'œuvre parfaite de Christ comprend également l'Église, comme je l'ai dit, qui lui seul la connaît dans sa totalité. Il faut faire attention à ne pas se rajouter des chefs ou des sous-chefs, ou des gens qui prennent des fois des autorités et qui vont en dehors de ce que Dieu présente. Voilà pourquoi Paul insiste. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de responsable dans l'Église. Il dit seulement que ses responsables doivent parler de Jésus de la même manière que lui. Et que ses responsables doivent avoir Christ dans leur cœur. Et que ses responsables doivent se comporter d'une manière différente. Parce que là, on y arrive. On arrive à ce que Jésus a fait, son œuvre, sa personne. Et maintenant, il va dire, voilà, vous. Les hommes. Paul, il a dépeint Jésus, il a dépeint son œuvre, et il dit maintenant, qu'est-ce que ça entraîne chez vous, ou chez nous, les hommes. C'est les derniers versets, 21-23. Il va dire comment Jésus change les vies, il va dire, Et là, pareil, j'ai relevé trois stades différents. Dans Colossiens 1, 21-23, hein, c'est la fin de notre passage, où il va dire « Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis de Dieu, vous, c'est les Colossiens, par vos pensées et vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés. » Ça, c'est Jésus. Par la mort, enfin c'est Dieu, par la mort de son Fils, dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui vous a été proclamé à toute, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Voilà, alors il y a trois étapes pour les hommes, hein, comme il y avait les trois étapes du salut, j'ai relevé un peu trois étapes. Trois étapes pour les hommes que Paul décrit aux Colossiens. Il dit, c'est pour vous souvenir et pour avancer. Il décrit en quelques mots ce qu'ils étaient. Ça, c'est le verset 21. Paul rappelle, dénonce une vérité brute aux croyants de Colosse. Et parfois, on a besoin de se rappeler. Il dit, avant que vous soyez touchés par la grâce de Dieu, il n'y avait rien de bon en vous. Ne croyez pas que vous auriez pu avoir votre salut en autre chose. Il dit, croyants de Colosse, vous étiez des ennemis de Dieu. Il nous dit la même chose aujourd'hui. Hein. Paul ne fait pas l'éloge de l'homme, ni de ses œuvres, ni jusque dans ses pensées. Il dit même, dans vos pensées, vous étiez ennemis, même si vous n'avez jamais parlé mal de Dieu. Dans vos pensées, vous étiez ennemis. Tout ce qui était de vous était condamnable et condamné par Dieu. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y avait des courants, et aujourd'hui il y en a encore plus, ces espèces de courants où l'homme peut s'élever de lui-même à être bon. Avec sa conscience, il peut s'élever, même si son corps est mauvais. Ça, c'était surtout au temps de Paul, hein, où le corps n'était pas bon, mais l'esprit pouvait s'élever dans les pensées. Ah là là, on était tellement mieux. Et donc l'homme pouvait jouer un rôle dans son salut. Il dit non, 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 Colossiens, ça, vous l'oubliez, vous étiez ennemis. Dans l'homme, il n'y a rien de valable. Tout est condamné et tout est condamnable, tout est péché. Vous ne pouvez pas vous rapprocher de Dieu vous-même, le salut est venu à vous. Et ça, c'est pour ça que Paul dit directement l'impossibilité de plaire à Dieu, parce que quand je discute autour de moi, il y a des gens qui me disent « Oui, moi je suis sympa, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, j'aide ma petite voisine à traverser la rue, je suis quelqu'un de sympa, pourquoi Dieu me condamne ?» Parce qu'on a cette tendance à oublier notre corruption, la corruption du péché qui jusqu'à dans nos pensées. Des fois, on discute avec un frère en disant bah, « c'est ne pas pécher une heure, c'est dur, deux heures des fois, mais dans les pensées, ça va tellement vite. Rien que de penser à quelqu'un, et boum, des fois, c'est déjà fait. » Alors, on demande pardon, hein, je ne dis pas, hein, et Paul ne dit pas ça pour les condamner, hein, on va y venir. Il dit juste que, attention, la bonté superficielle, le jeûne, m'as-tu vu, ou clinquant, ou même la circoncision, parce qu'il y a des gens aussi qui voulaient être judaïsants, il dit tout ça, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas vous rapprocher. Vous êtes corrompus, croyants de Colosse. C'est ce que vous étiez. Il dit, celui qui vous a sauvé, c'est pas ce que vous faisiez. C'est ce que lui, il a fait. Jésus, ce que je viens de vous présenter, Jésus, sa personne, son œuvre, c'est lui. Et nous aussi, on peut tomber là-dedans, parfois. On peut regarder quelqu'un et dire, ah, moi, je suis plus spirituel que lui. Je suis plus pieux. Regarde tout ce que je fais mieux que lui. C'est normal que Dieu m'aime plus. C'est normal que moi je suis plus proche de Christ parce que j'ai un diplôme de théologie. Ce n'est pas la théologie qui compte, mais je veux dire, parfois on peut s'enorgueillir de ce qu'on est et on pense que ça nous rapproche de Dieu. Et il est en train de dire, non, ça n'a pas de valeur si c'est en dehors de Christ. Il dit, si c'est en dehors de la grâce de Dieu, ça n'a pas de valeur. Mais là, voilà, c'est un verset, puis il leur dit, verset 22, il dit, voilà, ça c'est ce que vous étiez, mais il dit, voilà, je ne vais pas vous décourager, je vous le rappelle, parce que maintenant c'est ce que vous êtes. Il va leur donner leur nouvelle identité pour qu'ils s'en souviennent. Il dit, avant, vous aviez votre identité de Colossien. Il dit, maintenant, vous avez votre identité d'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, on a tous une identité française ou allemande, ou je ne sais pas quelle origine, mais on a aussi notre identité d'enfant de Dieu en Jésus. Et il leur dit, voilà, maintenant, vous êtes saints, vous êtes irréprochables, vous êtes sans défaut. Alors, je ne sais pas ce que voit ma femme, à mon avis, elle ne voit pas ça, on ne lui demandera pas. Elle ne me voit pas irréprochable et sans défaut. Mais il dit, voilà ce que vous êtes maintenant. C'est seulement en Christ et par Christ. Il dit, vous possédez cette identité non pas parce que vous êtes les meilleurs, mais parce que vous avez cru à ce que la personne de Christ et à son œuvre. Et il dit, Vous ne pouvez pas retirer Jésus sa force, parce que si vous retirez à Jésus ce qu'il n'est plus, enfin ce qu'il est, et vous vous dites qu'il ne l'est plus, ben vous n'êtes plus, vous êtes dépossédé de cette identité d'enfant de Dieu. Et donc vous n'êtes plus sous la grâce. Et donc sa personne est changée, son œuvre est changée, et vous êtes de nouveau des ennemis de Dieu. Il dit non, non, si vous vous mettez au centre, si vous méditez cela, voilà ce que vous êtes. Et c'est pour ça ce matin, on peut garder courage. Si tu crois en Jésus, alors Dieu te voit saint, sans reproche et sans défaut. Ça fait du bien hein, de savoir ça. Ça fait du bien parfois de se placer devant la grâce de Dieu en disant, par son œuvre, je peux me placer devant Dieu et être saint, irréprochable et sans défaut. C'est assez incroyable. Hein. Non pas par ma force, non pas par mon compte en banque, non pas par mon quotient intellectuel, mais seulement par l'œuvre de Jésus-Christ, par sa personne et par la croix. Et c'est ce qu'il est en train de dire aux Colossiens. Il dit, ne perdez pas courage parce que ça ne vient pas de vous. Mais au contraire, soyez fortifiés que vous êtes capables de vous approcher de Dieu et que vous êtes vus par Dieu de cette manière, par son Fils. Ce jour de Pâques, cette Pâques qui a plus de 2000 ans a vraiment tout changé. C'est un grand salut qui est entré dans le monde par l'œuvre de Jésus-Christ et par sa personne. Et ça s'offre aujourd'hui encore à toi, à moi, à nous. Aujourd'hui encore, tous les jours, jusqu'à ce que le Christ revienne, ou que nous soyons rappelés par lui, Paul nous pousse, et pousse les croyants de Colosse, à vivre et à nous regarder comme Christ nous voit. Mais du coup, qu'est-ce que ça implique? Il dit, voilà, ça c'est ce que vous étiez, ça c'est ce que nous sommes, mais maintenant, il y a le futur. Alors j'ai mis passé, ça c'est ce que nous étions, présent, c'est ce que nous sommes, et futur ou maintenant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, voilà, maintenant vous avez un rôle à jouer, chrétien de Colosse, chrétien de Wittenheim. Il dit, c'est bien, mais maintenant il faut garder ce message de l'Évangile. Sans rien ajouter, sans rien retrancher. De ne pas donner foi aux faux docteurs qui professent des mensonges, qui détruisent la vérité. Il dit, face au risque de dérive que l'apôtre voyait peut-être venir, hein, il dit, voilà, maintenant vous avez vu, ne vous détournez pas de Christ. Ne vous détournez pas de Christ. Parce que quand il a écrit à la lettre aux Galates, c'était ça. Ils ont été séduits rapidement. Il a dit, vous vous êtes détournés du Dieu vivant. Vous avez été séduits. Et il dit, voilà, Colossiens, vous avez vu cette œuvre, vous avez vu ce que vous étiez, vous avez vu ce que vous êtes aujourd'hui, mais, parce qu'il y a le mais hein, de ce verset 23, hein, verset 23, mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui vous a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis le serviteur. Il est en train de dire ce que vous avez entendu, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore tout rédigé les lettres. Mais il dit bien que c'est les apôtres qui étaient chargés, ou les envoyés des apôtres qui leur ont annoncé l'Évangile. Et il dit, c'est cet Évangile-là qu'il faut croire. Parce que nous, on vous a transmis cette vérité. Et il dit, il faut que ce que vous avez entendu, maintenant, il faut que vous le gardiez. Non pas quelqu'un qui va venir parler d'autre chose. Il dit, celui-là, il ne faut plus l'écouter. Il le met en garde, il dit, ce qu'on va dire, il n'y a pas besoin d'un patch ou d'une mise à jour. Pour ceux qui font de l'informatique, hein, il y en a souvent. Il n'y a pas besoin d'une version 1.2 de l'Évangile. Il dit, voilà, ce qu'on vous a dit, c'est cette bonne nouvelle. Elle est complète, elle est parfaite. Il n'y a rien à y ajouter. Seulement maintenant, il faut vivre dans ce cadre-là. Et que personne vienne bousculer ce qui a été dit. Soyez fermes dans la foi. Soyez fermes, c'est l'avertissement qu'il leur donne. De tenir ferme dans l'avenir. Il dit, maintenant vous avez commencé, eh bien, poursuivez jusqu'à la fin. Il dit, la parole de Dieu est cette vérité. Et tout ce qui va en encontre de la parole de Dieu, ben ce n'est pas parole de Dieu. Et donc ça doit être mis de côté. Quand je discutais avec un ami musulman qui était à la fac avec moi, il dit, oui, mais la Bible, elle est falsifiée, donc le Coran la met à jour. Je dis, mais qui a l'autorité pour dire qu'est-ce qu'on doit mettre à jour? Et après je lui ai dit, toi tu fais confiance à une personne qui a écrit un livre, alors que moi il y a plus de 60 auteurs sur 1600 ans d'écriture, et personne ne se contredit. Chez lui, il se contredit alors qu'il est tout seul. Bon, on pouvait discuter un peu plus, hein. Ne dites pas ça directement à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, qui est musulman. Hein. Mais ça lui a permis, voilà, je lui ai dit pourquoi. Il y avait plus de foi en la Bible. Parce que si on se met à discuter la Bible, même dans certains courants aujourd'hui évangéliques, où des gens commencent à rediscuter la Bible, je me dis, mais de quelle autorité rediscutons-nous de la Bible? Qui sommes-nous pour rediscuter que ça c'est juste, ça c'est pas juste? ça faut le changer, ça en fait, Paul il disait pas ça. On n'a pas l'autorité. Et c'est ce que justement, c'est ce qu'il est en train de dire dans les années 60. Paul, il est en train de dire, attention, ce que moi je vous ai dit, ou ce qu'on vous a dit, parce que Paul n'est pas allé à Colosse, il dit, c'est déjà pleinement suffisant, n'allez pas écouter quelqu'un qui dit autre chose. Et il ira même plus loin, il dit que même un ange venu du ciel qui cite un autre évangile, qu'il soit anathème. Donc, Paul va très loin en disant, non seulement des hommes, mais quelqu'un d'autre, même si c'est un ange qui viendrait lui dire autre chose que ce que la Bible a dit, ben, j'y croirai pas. Cette bonne nouvelle est pleinement suffisante, et Paul en était convaincu, il dit même, je suis serviteur de cette parole, moi, de cette bonne nouvelle. Et je vais l'annoncer où ? Partout. Il dit bien, hein, ça a été à toute créature sous le ciel. Alors Paul n'est pas... Il est conscient qu'il y a peut-être des endroits, mais c'est pour la volonté, pour montrer cette volonté en disant cette bonne nouvelle, elle ne va pas s'arrêter. Elle va aller partout, et je vais l'amener partout, aussi loin que mes pas me portent, et que Dieu me prête vie. Paul exhorte les Colossiens à ne pas se détourner de la lumière de Christ, et il nous donne cette même exhortation aujourd'hui. Par ricochet. Non, ne donnons pas foi à tout ce qu'on entend, mais regardons à la lumière de l'Évangile, parce que Christ seul suffit. Et pour terminer, on a vu hein, quelques versets, il n'y a pas grand-chose, hein, on regarde 15-23, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ? Finalement, il y a tellement de choses, tellement riche la parole de Dieu, et on ne fait que survoler. Voilà Paul qui nous... À cœur cette église, voilà, en quelques versets bien inspirés, il leur dit, voilà, église de Colosse, église maintenant d'aujourd'hui, qui allait lire ce message, ne vous détournez pas de la pleine suffisance de Christ. N'allez pas défigurer la personne de Christ. Et on peut même le faire nous. Hein. Parfois, nous, on a un Christ qui nous convient, un Jésus-Christ qui va nous convenir. Parce que celui de la Bible, des fois, il est un peu trop sévère, donc on va jouer à transformer Christ. Il dit non, il ne faut surtout pas nous détourner de l'image de la personne de Christ telle que la Bible le présente. Il dit Dieu le Fils, c'est l'image du Dieu invisible. Ça, c'est ces versets magnifiques. Premier-né de toute la création, en effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire que tout homme a été créé normalement pour lui et par lui. Et combien de autour de nous, qu'on connaît tous ces hommes et ces femmes qui n'ont pas été, en tout cas, ils ont été créés par lui, mais ils ne sont pas encore pour lui. Ça semble évident aujourd'hui, hein, j'ai peut-être enfoncé des portes ouvertes pour vous, surtout dans ce temps de Pâques, où on se souvient de cette mort, de cette résurrection, pourquoi on irait voir ailleurs. Mais des fois, en fouillant dans nos cœurs, on s'est rendu compte que ben, Jésus qu'on nous a présenté, ben, on l'a un peu transformé avec le temps. Paul assure de la supériorité de Christ et l'impossibilité de l'homme de se sauver en dehors de l'Évangile. Et c'est une simplicité salutaire. La simplicité de l'Évangile est sa force. C'est cette bonne nouvelle dont Paul était le serviteur et dont aujourd'hui, nous aussi, nous voulons être dépositaires et serviteurs. Prenons au sérieux ces versets. Interrogeons-nous sur la place de Dieu dans nos vies de tous les jours. C'est sûr que le dimanche de Pâques ou le lundi, Jésus va peut-être avoir une place particulière, mais dans la vie de tous les jours, est-ce que parfois il est toujours le premier ? Est-ce qu'il est toujours le premier-né ? Est-ce qu'il est toujours l'image du Dieu invisible ? Pas toujours. En tout cas, moi je le confesse, pas toujours. Dans nos foyers, quand c'est possible, est-ce qu'il est le chef de notre foyer ? Est-ce qu'il est le chef de nos cœurs ? Est-ce qu'il est le chef de notre église ? En tout temps ? Soyons alors reconnaissants et pleins d'espérance par notre nouvelle identité acquise en Jésus-Christ. C'est le seul chemin qui mène à Dieu. Jésus l'a dit avant même sa mort, « Je suis le chemin ». Il était conscient de l'œuvre qu'il allait faire. Et encore une fois, Paul dit qu'il n'y a pas forcément que ça va être bien. Il dit « Tenez ferme dans la foi. Restez ferme. Il va y avoir des combats, il va y avoir des luttes, il va y avoir des découragements. Mais restons en marche. Regardons à Christ. » C'est pourquoi je vous laisserai ce dernier Christ pleinement suffisant. Et ce dernier... verset de l'auteur de la lettre aux Hébreux. Cette lettre aux Hébreux, après avoir fait ce qu'on appelle les témoins de la foi, tous ces gens qui ont cru sans voir, et je pense que voilà, on peut aussi, nous, être encouragés de toutes ces générations qui nous ont précédés, qui ont tenu bon dans la foi. Et dans Hébreux 12, verset 1 à 3, il dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Voilà, si ce matin, découragé, sois encouragé. Voilà, sois encouragé que Jésus a vécu les mêmes choses, même en pire, et nous sommes prêts à être relevés et être en chemin avec Jésus. C'est pas facile, mais soyons fermes dans la foi.